RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
Et on démarre une nouvelle semaine pour l'ITV Calvez. Bonjour François.
Alors, c'est une ITV Calvez. Alors là, on est quand même à la maison. Hein. On est sur une ITV Calvez un peu particulière, hein, puisqu'on est sur une ITV Calvez avec Véronique Genest, qu'on remercie de venir dans nos locaux. Voilà, en plus, on est le combien ? On est le 7 ?
Oui.
7 mars. 7 mars ?
Oui.
Ouais. T'es pas gagné d'avoir l'antenne le 7 mars, il y a peu, on le rappelle. Véronique, comment ça va ?
Bah, ça va super, très très bien, et vous ?
Bon, bah, nous, comme d'habitude.
Bien, ça va.
Ça
va mieux.
On a l'air.
Merci d'être venu. Je vais rappeler quand même aux auditeurs que Véronique... Alors, on va se tutoyer parce que c'est un peu le temps de l'émission.
Oui.
Que Véronique avait signé la pétition assez rapidement.
C'est vrai.
Hein ? Donc, on t'en remercie.
Je l'ai appris par Anton, je crois.
Sigourani.
Oui, Sigourani, qui est mon technicien.
Parce qu'à un moment, on était un petit peu dans le dur. Voilà, l'horizon s'éclaircit, mais on était un petit peu dans le dur. Donc, on te remercie de vive voix.
Oh, bah, c'était normal.
Voilà. Alors, pour les auditeurs de Radio Cavi Citadelle, voilà, je vais essayer, puis ça va nous permettre un petit peu d'en savoir plus sur toi. J'ai essayé d'aller sur Internet.
Tu as essayé, tu as réussi ou pas
d'elle belle, hein.
Alors j'ai réussi, même si on est à Calvi. J'ai la fibre le 15. Hein, j'ai la fibre le 15.
Oh bah alors, non.
Oui.
Pourquoi moi, à l'Omio, je n'ai pas la fibre
hein. Ouais, parce que.
Faut téléphoner avec une zone.
Il paraît que je ne l'aurai jamais en plus.
J'ai des réseaux. Voilà, donc j'ai été dans cette masse d'informations nébulaires. Je suis rentré dans la matrice. Je suis rentré dans la matrice et j'ai essayé de faire une petite bio exhaustive. Qui va nous permettre un petit peu d'en savoir plus sur toi. Donc, la fibre artistique commence assez tôt dans le cabinet médical paternel.
Oui, dans l'appartement, dans notre appartement qui était aussi le cabinet médical de mon père.
Donc, apparemment, déjà dans la salle d'attente...
On interviewait beaucoup les gens, on leur faisait la comédie, on les faisait patienter avec mon frère. On avait mentionné aussi une radio, enfin, on faisait beaucoup de choses. Théâtre de marionnettes, etc.
Tout au long de la scolarité, tu fréquentes aussi un petit peu les groupes de théâtre.
Oui, on crée des groupes de théâtre. On voulait même aller en Avignon, mais bon, on était trop jeunes et les parents ont dit non, dommage. Mais ben voilà, on jouait dans les campagnes, on jouait dans les lycées, on jouait partout.
Donc la fibre, elle y était. Malgré tout, tu as un brevet d'esthéticienne et de maquilleuse. Et en fait, le projet, c'est d'intégrer ce monde-là
en deux bandes.
En deux bandes. Mais est-ce que tu dis, je vais faire carrière de maquilleuse et je vais fréquenter ce monde-là et ça me va ? Ou est-ce que tu avais une idée derrière la tête ?
Non, pas du tout. Non, j'ai fait esthéticienne et maquilleuse parce qu'il y avait maquilleuse parce que ma mère voulait que je le fasse parce qu'elle voulait pas que je sois comédienne et qu'elle voulait que j'ai un métier en main. Et moi, comme je me suis dit dans ma petite tête, j'ai aussi fait hôtesse d'accueil.
On va y venir.
Ah bon, oui, d'accord, mais c'était avant ça. Donc j'ai dit, ok, d'abord un pour qu'on me foute la paix, deux parce que c'était à Strasbourg et que ça me permettait de me barrer tous les jours pour aller au TNS. 3 parce que le niveau d'études était largement inférieur au mien qui était allé quand même jusqu'en terminale. Moi, je ne sais pas, faire les règles de 3, ça me posait pas beaucoup de problèmes, vu qu'en plus j'étais matheuse. Donc en fait je suis allée là pour qu'on me lâche la grappe et puis en me disant que bah, après tout, finalement, aller sur des films comme stagiaire en disant je suis maquilleuse et puis se glisser, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur la communion solennelle de René Ferret à Béthune et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Donc en fait, c'est des manières de se glisser d'une manière ou d'une autre là où on veut aller.
En ayant moins de pression familiale.
Voilà, tout en ayant la paix parce que les parents sont tranquilles.
Alors, il y a ce boulot au Palais des Arts où tu fais...
Oh, ça c'est à Paris, après.
Tu fais un peu tout. Ah, ouais. Ouvreuse, accueil, standard,
tout,
le
tout
placement.
Oui.
Là, alors là, moi, ça me touche énormément parce que vente du magazine Fluide Glacial que Gottlieb te donnait... Directement.
Oui, alors en fait voilà, parce qu'en fait je me retrouve.
Parce que Gottlieb, c'est mon idole. Hein.
Bah ouais, moi j'aimais beaucoup. Hein. Et en fait, je me retrouve à faire un peu tout au Palais des Arts et Bernard Allaire passe son spectacle là-bas et donc c'est pratiquement l'inauguration. Je rencontre Brassens, je rencontre un monde de fous. Donc le soir j'étais là forcément. Puis je me mets à placer et Gottlieb avait fait des sandwichs programmes, c'est-à-dire qu'il y avait des sandwichs qu'on vendait à l'entrée avec une feuille qui était une BD de Gottlieb autour. Donc en fait, je me saisis d'un truc et je me mets à faire à l'arracher dans la salle, à faire rigoler les gens, à les placer, les célibataires, à mettre à côté d'une fille en leur posant des questions sur leur goût. Et puis je commence à chauffer la salle. Et quand Allaire arrive en scène, il a une salle qui est hyper chaude, déjà complètement délirante. Et il me fait appeler après le spectacle. Il me dit, mais tu veux pas continuer ? Alors j'ai dit, ben ouais. Il me dit, viens alors. Et en fait, il y avait des fûts glaciales, des paquets de fûts glaciales. Et donc, je me retrouvais à aller à fûts glaciales régulièrement recherchés. Et fûts glaciales me dit, toutes les ventes, c'était des invendus, toutes les ventes, c'est pour toi. Je me suis fait des couilles au nord. Non, mais c'était juste une époque géniale. Et surtout, je me suis fait de Bernard Allaire un super ami. Après, je me refuse. Après, et j'ai rencontré comme ça énormément de gens qui m'ont présenté énormément de gens. Et ça a été une sorte de boule de neige.
Alors, c'est une bio exhaustive, hein, parce que la vie est très remplie. Rapidement, tu accèdes au monde de la publicité.
Ah oui, alors tout à coup, je me retrouve effectivement...
Début des années 80.
Voilà, donc effectivement, à force de tout ça, je rencontre quelqu'un, je rencontre Méni Drey qui me prend pour une pub en deux secondes parce qu'elle me trouvait rigolote. Et puis après, je me retrouve à faire des castings de pub et je me retrouve à faire une pub, Minimir, qui se retrouve à faire, et qui a carrément eu des tonnes de prix et qui a été ma rente annuelle pendant pas mal d'années. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'étais dans la merde, mais moi, je crois que je suis née quand même sous une bonne étoile. J'étais dans la merde, j'avais le loyer à payer, j'avais plus rien. Tout à coup, j'ouvrais ma boîte. Et j'avais un super chèque pour toutes les royalties. Et je paye.
Minuit, c'était quoi ? C'était lessive ?
C'était
quoi ?
Oui.
Et avec les petits oiseaux, c'est ça ?
Oui, c'était un truc. Non, c'était pas de la lessive, c'était pour la vaisselle, là. C'était les bidons vaisselle et tout. Et je me retrouvais avec des chèques qui pendant 6 mois, me gardaient à l'abri. Donc, ça a été une rente extraordinaire. Extraordinaire. Et après, j'ai fait une pub Madrange qui, elle, m'a payé ma maison ici. Ah. Et oui, non, mais moi, j'ai pas de langue de bois, hein, je veux dire...
C'était quoi ? C'était le jambon, hein,
c'est ça ? Oui, Madrange de jambon.
Alors, en 81, première utilisation du pseudo Véronique Geneste.
Ah oui, bah, dans Nana,
pour une mini-série Nana.
Ah bah oui, ça c'est Cazeneuve, il m'a dit, oh là là, tu as un nom à coucher dehors avec un billet de logement, il faut en changer. Donc, je m'appelais Combouillot. C'est vrai que mon père, ça me faisait rire, parce qu'on l'appelait Gros Bouillon, Gros Courbouillon. Et donc, il m'a dit, il faut en changer. Donc, j'ai choisi dans la famille. Hein. Moi, j'avais
c'est un nom familial.
Des Ormeaux, Genet, Petre, c'était peut-être un peu trop... voilà. Donc, j'ai choisi... Des Ormeaux, c'était joli aussi. Mais Genet, ça lui a plu, Genet, Véronique Genet. Alors, on dit Geneste, en fait... C'est le S qui est devenu un accent circonflexe, c'est comme forest, hospital, en vieux français, on mettait des S.
Donc attends, et puis, parce qu'on ne va pas dire de bêtises. Oui, oui. Donc est-ce qu'il faut dire Genet ou Geneste ?
Les deux se disent, puisque on peut dire forest.
Tu ne t'offusques pas si on dit Geneste ?
Non, parce qu'en fait, non, pas du tout. Genet. Ou Genet, Geneste. En vieux français, Geneste. Et le S est monté, est devenu un accent circonflexe pratiquement tous les. Voilà, donc on fout.
Parce qu'en vieux François.
En vieux François.
Voilà, le S s'est transformé dans la réforme
accent,
en complexe, accent.
Hospital, forest, etc.
Un petit peu de culture sur RCC.
Mais donc moi, je disais toujours, ben, peu importe qu'on dise l'un ou l'autre, du moment qu'on le dit.
Après, non, encore une fois, c'est exhaustif. Hein, on fait des bons. Hein, on fait
allez, des bons. Faisons des bons.
Il y a carrière dans le théâtre. Il y a en 87 Association de malfaiteurs avec Claude Zidi.
Oh, alors ça, oui, j'en ai passé des trucs jusque-là. Oui, hein, oui. Il y en a eu des films. Hein, des films
en 89, alors là, je ne sais pas, parce que tu vas peut-être me le dire. Il y a une première approche avec TF1. Tu fais le dernier épisode de David Lansky avec Johnny.
C'était pas pour TF1 ?
C'était pas pour TF1. Lansky, c'était pas sur TF1.
Non, c'était pas sur TF1, David Lansky. Je pense pas que c'était sur TF1, David. Ah non, je crois pas que c'était TF1.
Alors, on va chercher.
Non, la première fois qu'il a été sur TF1, non. Ah non, je suis pratiquement sûr que c'était pas pour TF1, David Lansky.
On va regarder.
Non, pas du tout.
On lance notre système de recherche automatique.
Attends, mais David Lansky, je tournais avec Michel, avec Eddie Mitchell.
Antenne 2.
Tu vois, c'est France
Antenne
2.
Et pas France 2, ouais. Antenne 2. Hein.
Antenne 2 à l'époque, ouais.
En vieux français.
Oui, non, c'était pas pour TF1. Et, mais la 2, j'étais une star, la 2. Je rigole, non, mais voilà.
Et c'était diffusé du 30 avril au 12 novembre.
C'était ça qui trouvait que j'étais un peu incontrôlable. Ou qui m'aimait à l'époque. Bon, enfin, c'est pas grave. Et non, c'était pour la 2. Je tourne... Oh, mais ça, c'est parce qu'en fait, Je tournais, je connaissais bien Hervé Palude, qui faisait les David Lansky. Je n'avais jamais rencontré Jean-Yves. Je tournais avec Eddie Mitchell, un film de Sébastien Graal, et on s'entendait super bien. Et en fait, c'est ce qui était rigolo, c'est que tous les jours, j'allais bouffer avec Eddie Mitchell et Johnny Hallyday
alors,
le soir.
Alors, comme tu n'es pas du Sérail, malgré tout, alors je suppose que c'est ta bonhomie, ton caractère qui fait que tu as adopté. Est-ce qu'il n'y a pas un coup de pression quand on est face à des gens hyper célèbres? Parce qu'à ce moment-là, toi, tu n'as pas la notoriété, tu commences. Est-ce qu'il n'y a pas un coup de pression de se dire, oh, je vais être avec Johnny, je vais être avec Eddie Mitchell?
Non, bah pas moi.
Non.
Non, parce que c'était des gens formidables. Au contraire, il y avait beaucoup de trucs. Et je dirais presque au contraire, c'est Johnny qui était quelqu'un tellement plein de doutes par rapport à sa possibilité qui était en demande de conseils et il était extrêmement touchant. Moi, j'ai été très touchée par Johnny. J'ai trouvé que c'était un personnage très particulier et tellement rempli de doutes. C'est marrant. Tout en étant comme ça, tellement entouré, tellement une star, c'est la personne qui avait le plus de doutes que j'ai rencontré. C'est drôle.
Alors, rebond de deux petites années, un passage à surprise en 91. Et ce passage, quelque part, il va créer un genre de plébiscite au niveau de l'audience.
On l'a tourné en 90, à mon avis, oui.
Mais il passe en 91.
J'étais en train de faire une chanson avec Michel Fugain. Et on était en promotion, on venait de faire la chanson.
Mais c'était une vraie chanson ou c'était pour l'émission?
Non, c'était une chanson.
Comme une histoire d'amour,
le titre. Une histoire d'amour, qu'on vous chantera d'ailleurs peut-être cet été au festival.
On passera après.
Et donc, on avait rendez-vous avec. J'avais rendez-vous avec le producteur pour une émission et pour faire des photos avec Michel. Donc il m'a dit passe là, je te prends. Et puis on est parti dans un délire. Il m'a fait partir dans un délire. Et en fait, c'était une caméra cachée de surprise. Donc je me suis fait avoir, mais c'était plutôt extrêmement sympathique. Ça a été publicité par le public et ça m'a
ouvert les portes.
Ça m'a débunkisé.
Oui, parce que tu me disais en off qu'à l'époque, TF1, les portes n'étaient pas ouvertes.
Moi, on venait de me jeter d'un film pour lequel le metteur en scène m'avait choisi, où j'avais déjà fait des costumes. Et au dernier moment, on m'a acheté parce que je n'étais pas bankable pour eux. Je n'étais pas quelqu'un de bankable à cette époque. Et puis, tout à coup, ça m'a rendu bankable, voilà. Alors que ce n'est pas du tout mon métier, que c'est juste. Mais bon, j'ai dit, écoute, tant mieux. Hein. Et quand Caroline Huppert m'a dit, est-ce que tu ne veux pas faire le pilote de Juliesco, je lui ai dit, écoute, Caro, tu es adorable, je t'adore, je venais de tourner avec elle. Je lui ai dit, mais honnêtement, renseigne-toi avant parce que franchement, je pense pas que TF1 me prendra. Elle m'a dit si, ils sont d'accord, c'est même eux qui me disent de te le proposer. Tout à coup, je suis tombée un petit peu des nues. Voilà.
Alors là, c'est en 92. Est-ce que tu t'attends à ce moment-là à ce que ça fasse un carton? Moi, je rappelle quand même aux auditeurs, hein, c'est 22 ans non-stop.
C'est énorme.
Prime time sur la première chaîne d'Europe. C'est 3 sets d'or de meilleure comédienne. C'est un record, c'est 12,5 millions de téléspectateurs devant l'écran. Est-ce qu'en 92, quand tu commences la série, tu t'imagines que ça va être 22 ans de ta vie?
Oui, j'ai tourné en 91, je venais de tourner un très très beau film pour la 2 qui s'appelait Secret de famille, que j'avais adoré tourner. Je ne me disais pas ça du tout et je ne me suis jamais dit que les choses que je faisais, Secret de famille, a très très bien marché. Je ne me suis jamais dit que...
Hein? Oui, non, le micro bien en face de la bouche.
Ah bon. J'ai jamais construit de château en Espagne. Moi, j'ai jamais pensé que les choses allaient marcher ou pas marcher. J'ai jamais réfléchi à ce genre de ça. J'ai jamais vraiment fait j'ai fait beaucoup de projets. J'ai construit beaucoup de choses, mais je me suis jamais dit, je le fais parce que ça va marcher. J'ai toujours fait les choses parce que j'ai envie de les faire. Me suis toujours laissée emmener par mon impulsion, par mon envie. C'était un beau personnage, mais je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous faire rigoler. C'est un personnage que je trouverais trop, trop cucu au départ, moi. Parce que moi, j'étais en pourparlers, je travaillais avec Gérard Jauduit, on avait fait une pièce de théâtre qui produisait. Et en fait, j'avais un scénario de Gérard Jauduit qui m'amusait énormément et qui ressemblait plus à ce qu'on aurait pu appeler Clair de Lune avec Bruce Willis. Je ne sais pas si vous avez vu la série.
Oui, il était détective privé.
Voilà, et c'était une série avec... Il devait être logiquement fait avec il voulait Thierry Lhermitte et moi. Et donc, cette série, c'était plus sur une fille complètement barrée, très riche, qui se met dans la merde partout, tout le temps. Et donc, son père, lui met sur le dos un mec pour essayer de la, un vrai détective pour essayer, parce qu'elle a décidé d'être détective, un vrai mec pour essayer de la. Et en fait, elle est amoureuse de lui, mais en fait, voilà. Et c'était très, très drôle. Les histoires étaient très drôles et c'était une fouteuse de mer. C'était un personnage que j'adorais, qui était vraiment un personnage extrêmement fun. Et en fait, quand j'ai fait la série du GSCO, mais le pilote, mais déjà, on a beaucoup changé, Caroline et moi, parce que par rapport au pilote d'Alexis, le Caille, où le personnage était derrière un bureau en jupe et tout, on l'a hyper modernisé, on l'a mis sur le terrain, on s'est beaucoup battu pour ça, déjà. Mais ensuite, moi, quand j'ai rencontré Moujotte, qui m'a dit, bon, ben, on en fait 12, puis 13, puis 13, puis 13, enfin, c'était des séries à l'époque de 13 épisodes, moi, je lui ai proposé cette série-là à la place. Et il m'a rayonné, bien sûr, parce que lui, il pensait que ça allait marcher. Mais il ne faut pas oublier quand même que ce pilote est resté dans le placard très longtemps, parce qu'en fait, il y avait une bavure policière dedans, et que personne ne voulait sortir. Ah. Et c'est que Moujotte qui insistait lourdement et qui l'a sorti parce qu'il l'a montré à sa famille et que sa famille a adoré. Mais moi, honnêtement, je ne pensais pas que Julie Lescaut allait être le personnage que ça a été, parce que je trouvais ça un peu trop gnagnon. Voilà. Mais c'est devenu moins gnagnon après, parce qu'on l'a beaucoup travaillé pour que ça ne le soit plus, pour que ça soit un peu plus politiquement incorrect. Mais bon, on l'a fait dans les limites de ce qui était possible. Mais moi, j'ai toujours rêvé d'un personnage, d'ailleurs beaucoup plus comme il y a eu sur la 3, etc. Je rêvais des personnages beaucoup plus forts, beaucoup plus anticonventionnels, beaucoup plus... Voilà.
Parce qu'il y avait un petit peu, à cette période, il y a eu Corinne Touzet avec Une femme d'honneur.
Oui, après.
Après, il y avait la concurrence quand tu vois arriver une série avec une gendarmette, est-ce que tu te dis, oh là là...
Pour moi, il n'y a jamais eu de concurrence, on était sur la même chaîne. Pour moi, il n'y avait pas de concurrence. Il y avait au contraire une émulation permanente. C'est-à-dire qu'il fallait que la case marche. Plus il y avait de choses sur la case qui marchent, moins on passait souvent. Et plus on durait longtemps. Et plus les scores et plus les gens prenaient l'habitude de venir sur cette case. Donc pour moi, il n'y a jamais eu de compétition avec Corinne, avec Mondi, et de loin de là.
Non.
J'aurais peut-être aimé plus de diversité après, mais honnêtement, pour moi, il n'y a jamais eu aucune concurrence.
Alors là, on est vraiment dans la période la fiancée des Français. Est-ce qu'à un moment, tu as toujours réussi à garder les pieds sur terre? Ça pourrait se comprendre qu'à un moment, on se dise, je tourne énormément, ça fonctionne, j'ai des récompenses, je suis reconnu par le public. Est-ce qu'à un moment...
Je suis bankable.
Enfin, est-ce qu'à un moment donné, on pète les plombs?
Non,
je sais pas, je pose la question.
Bon, non, pourquoi péter les plombs? Moi, j'ai jamais pété les plombs. Enfin, c'est pas à moi de vous le dire. Vous auriez mieux fait de faire un radio-crochet. Je pète les plombs différemment, moi. Mais il faut arrêter avec le côté bankable, parce que ce métier fait que de sectorisation. C'est-à-dire que vous êtes bankable pour la télé, donc vous ne l'êtes pas pour le cinéma.
C'est horrible, ça.
Donc vous ne l'êtes pas pour là. Ah, mais c'est pas parce que...
Les 22 ans de Julie Lescaut, ça t'a empêché d'avoir des projets
annexes?
Bien
sûr, on n'arrêtait pas de me dire ça. Alors que j'avais commencé par le cinéma, puisque j'étais une star de la télé, je ne pouvais pas être une star du cinéma. Puisque j'étais une star de la télé, je ne pouvais pas être une star au théâtre. Puisque...
François, tu ne pourras pas faire de la télévision, toi. Hein. Tu fais la radio maintenant. C'est de la radio.
C'est fini. Non, mais aujourd'hui, il y a un peu plus de...
Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on prend maintenant pour la télé des stars de cinéma qui... On est dans un perpétuel...
La consommation est différente aussi.
La consommation est extrêmement différente. Les audiences aussi le sont. Et moi, tout à coup...
Oui, parce que 12,5 millions de personnes, ça, c'est plus possible. Hein.
On se plaisait... Si, c'est toujours possible. Mais c'est toujours possible pour des trucs exceptionnels.
Voilà.
Des soirées exceptionnelles, etc. Et bien sûr que c'est possible de faire des très beaux scores. Mais... Il faut des trucs très originaux pour ça, pas le truc moyen, etc. Quoi. Voilà. Bon, et c'est vrai qu'on est un petit peu, on navigue un peu dans la moyenne et dans le pathos et dans des choses qui, moi, personnellement, ne m'intéressent pas.
Parce qu'on voit TF1 aujourd'hui sur des programmes forts, type Koh-Lanta, type The Voice et tout. Quand ils font 5 millions, ils sont contents.
Oui, mais ça, c'est pas de la fiction. C'est un genre de fiction, mais c'est pas de la fiction. C'est fictionné, mais c'est pas de la fiction. Mais en fait. Moi, je regarde Koh-Lanta et The Voice. Hein. Je vous avoue, et je m'amuse beaucoup. Je laisse passer les premiers parce que les premiers, je vois. Mais après, je regarde et je verrai que je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant au niveau humain. Quoi. Ça me plaît bien de regarder ça. Mais Non, mais je parle des fictions. Je parle des fictions. Je suis un peu. J'ai toujours été un peu frustrée, moi, au niveau de la fiction. J'ai toujours l'impression d'être mis dans un carcan. J'ai toujours eu envie de faire exploser les limites. J'ai toujours été trop grande gueule pour eux parce que je l'ai jamais fermé. Puis voilà. Puis c'est comme ça. Puis c'est ma vie. Puis c'est moi. Puis ça me regarde. Moi, j'ai jamais fait de plan de carrière. Et puis je trouve que la vie dans ce qu'on vit quotidiennement est souvent plus importante. Voilà, que ce qu'on...
Les rencontres, les...
Voilà, il y a d'autres choses dans la vie. Il y a plein, moi, j'ai plein
Est-ce qu'il y a, alors c'est pas...
De choses qui me tiennent à cœur. Ma famille, hein, le théâtre, deux. Et je préfère une très belle pièce de théâtre plutôt qu'un rôle de merde au cinéma. Excuse-moi comment je parle mal. Hein, ou à la télé. Et on ne me propose plus que... Alors, après tout ce que j'ai fait, depuis que j'ai arrêté Julie, on ne me propose que des rôles sans intérêt. Mais vraiment sans intérêt, à part la disparue du Pilat. Et encore, j'avais pas le rôle de titre. Parce que passé un certain âge, à part quelques rares rôles, c'est rare qu'on propose des trucs. Ou alors, il faudrait rentrer dans une autre série. Parce que c'est une série qui va créer un personnage un peu, on va inviter d'autres personnages. Mais des vraies histoires, on parle des vraies choses. Aujourd'hui, il y a que les Américains qui les font encore. On viendra dans 10 ans. Bah, je sais bien, je serai très vieille dans 10 ans, je pourrais les faire. Mais voilà. On est dans une sorte de truc, pour moi, un no man's land qui ne m'intéresse pas. Et au théâtre, je suis très heureuse, parce qu'au théâtre, on a un vrai travail de comédien, on a un vrai rapport au public. En ce moment, moi, je joue avec Daniel Russo et trois autres comédiens, je joue une pièce de... Ben, un Corse, tiens, Frassetti, hein ? C'est ça son nom, là, je me trompe toujours avec les noms, mais...
Alors,
un Corse qui joue beaucoup.
C'est Papido.
Ah oui.
Frascassetti ou Frascetti.
Attends. Alors, soit.
Attendez.
C'est.
On reviendra dessus.
Fraticelli.
Ah voilà.
Oui, voilà.
Oh putain, mais je suis nulle Pido. Avec les noms. Hein. Ah voilà.
Pido pour.
Donc voilà.
Les intimes.
Formidable. Si on savait, c'est juste génial.
Mais est-ce que, on va pas parler de regrets parce que j'ai l'impression que tu fonctionnes pas comme ça. Est-ce que tu te dis, si j'étais plus jeune aujourd'hui, j'aurais cette possibilité de pouvoir partir sur des projets, sur des fictions, ciné, faire mon théâtre, faire ma série, faire des trucs. Là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est quand même le champ des possibles est un peu plus ouvert pour les acteurs.
Oui, ça dépend de l'âge. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, avec tout ce que je sais, je ferais certainement autrement encore. Toujours, parce qu'on on évolue, on avance, on pense, on veut dire, mais si je recommençais mes 20 ans avec tout le bagage que j'ai aujourd'hui dans de ce que j'ai vécu, il est évident que je ne referais pas, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, certainement, mais les erreurs, elles aident à avancer aussi.
Est-ce que 22 ans de Julie Lescaut, tu es parti avant de faire la saison de trop, ou tu penses que tu aurais dû boucler la boucle un petit peu avant?
J'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai produit, on a produit avec mon mari, j'ai fait plein d'autres films pendant ce temps-là qu'on fait des cartons, parce que quand tu me parles des 12 millions 5, j'ai fait 12 millions 6 avec un unitaire. C'est l'unitaire, hein, 12 millions 6.
J'ai sauté.
C'est
j'ai
pas
sauté.
Julie Lescaut, hein. C'est bien sûr que non. Ah,
François, enfin, qu'est-ce que c'est en
avec un Donc j'ai fait beaucoup de films.
Quelle intervieweur de merde.
J'aurais aimé pouvoir avoir accès à des rôles de cinéma. Et aujourd'hui, les vases communicants entre le cinéma et la télé, aujourd'hui, seraient à mon avantage. C'est-à-dire qu'à un moment où j'aurais, moi, fait Julie Lescaut en tant que Julie Lescaut, et si au bout de 10 ans ou 20 ans, enfin 10 ans même, ce qui ne m'aurait pas empêché de continuer Julie Lescaut, on m'avait proposé... Un rôle au cinéma superbe et tout ça, bien évidemment que je l'aurais fait. Mais on ne me l'a pas proposé, on n'a proposé que des rôles nuls. C'est-à-dire que des trucs. Enfin, je ne sais pas moi, imaginez.
Il
y a Prost, il est dans sa bagnole, là, sa Formule 1, et on lui dit. Écoute, pour aller dans tel pays à l'international, ou je ne sais pas quoi, ou pour. Prends la deux chevaux. Vas-y, fais une course avec la deux chevaux. Mais bon, à côté de toi, tu auras des mecs en Ferrari, hein, parce qu'on te met dans un petit rôle de merde. Je veux dire, mais quoi moi, j'avais pas envie. Tout ça, alors pour se dire, oui, il faut recommencer à zéro et montrer qu'on peut être comédienne parce qu'on est au cinéma et qu'une comédienne de télé, c'est pas une comédienne de cinéma. Je suis désolée. Pour moi, comédienne de télé, c'est beaucoup plus difficile que comédienne de cinéma parce qu'à la télé, on n'a pas le temps. Donc, c'est quelque chose où, en plus, on doit avoir la rapidité, la spontanéité. Le travail est triple quand on fait des séries parce que Parce qu'on a beaucoup plus...
Parce que c'est le même temps qu'un film, mais...
Parce que ça dure une heure et demie même, mais pour le tourner, on prend trois fois moins de temps. Donc, vous avez intérêt à être beaucoup plus performant. Donc, il faut arrêter. Faire du cinéma, c'est du luxe. Donc, tout à coup, aller faire du cinéma et on te dit que tu dois refaire tes preuves parce que c'est du cinéma. Les gens ne viendront pas te voir, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils l'ont essayé. Les gens ne vont pas voir parce que tu n'as pas... Je suis désolée, si tu as une série et que les gens vont te voir à la série et que tu as un très beau rôle au cinéma, pourquoi ils n'iraient pas te voir au cinéma? Bruce Willis, il a fait quoi? Il a commencé par la télé. Clooney, il a commencé par quoi? Il a commencé par une série à la télé. Faut arrêter le délire.
Moi, j'ai commencé par RCC, on ne sait jamais.
Non, tu as fait la cave avant.
Ah oui, c'est vrai.
T'as
vu?
C'est vrai.
J'ai fait la cave.
Non, c'est juste un truc de chapelle ou en France, c'est une sorte de spécialité française, dans tous les cas, de l'époque. Quand tu as trop de notoriété, on essaye de t'écraser un petit peu parce que quelque part, tu dois faire peur. Tu demandes de l'argent. Ah mon Dieu, tu demandes de l'argent. On fait chier un joueur de foot quand il demande de l'argent. Il y a dans notre pays où on dit tout à coup, tu gagnes trop d'argent, mais ma grande, je vais en gagner pendant 10 ans, puis je ne vais plus en gagner du tout après. Alors laisse-moi vivre. Puis si je gagne de l'argent, peut-être que tu vas en profiter finalement aussi, puisque je vais payer beaucoup d'impôts. Pourquoi en France, on a cette haine des gens qui travaillent?
Oui, c'est vrai qu'il y a ce tabou.
Pourquoi? Mais ça devient d'où ça? Si on nous donne cet argent, c'est qu'on le mérite et qu'on en rapporte 10 fois plus. Pensez que TF1, il me payait, ou ma production me payait grassement, simplement parce que ça leur faisait plaisir. Enfin, vous délirez. C'est que
on est presque dans un monde cynique, là.
On est dans un monde, je trouve, extrêmement jaloux, extrêmement... Voilà, moi, j'ai jamais été jalouse de personne. Aujourd'hui, je gagne 10 fois moins d'argent et je me démerde. Et ça ne m'empêche pas de continuer à aider les gens que j'ai à aider. Et puis voilà, je fais avec. Et puis je suis bien, je suis heureuse, j'ai fait ma vie. Et j'emmerde personne. Et j'adore le succès. Et quand quelqu'un a du succès, je suis ravie. Parce que pour moi, le succès entraîne le succès. L'argent amène l'argent. Et qu'il faut arrêter tous ces délires qui, me déprime. Je les trouve con.
Alors, on va là basculer sur la deuxième partie d'émission. C'est la partie Calvez. Le premier souvenir Calvez, la première fois que tu mets les pieds à Calvi, c'est quand?
Calvi proprement Calvi.
Ah
hein.
Oui, Calvi proprement Calvi. Ah,
le
reste,
on s'en fout. Parce que la Corse, j'ai mis les pieds très longtemps avant la Corse.
Non, la Corse se résume à Calvi.
D'accord, on fait que Calvi, parce que moi, j'ai mis les pieds en Corse en 80, juste après Nana. Parce que j'en pouvais plus et que j'avais un ami, Spinetta, qui était architecte. Dominique, son frère était patron d'Air France, j'en sais rien, qui avait un appartement à Ajaccio, qui me l'a prêté avec Sébastien, ma copine. On a passé.
C'est pas la Corse.
Énorme, hein?
Ajaccio,
c'est pas la Corse. Voilà. Non, mais j'ai commencé par là et je me suis baladée.
Ah oui,
mais je vais y arriver. Et j'ai commencé à faire le tour du sud et j'ai fait tout. J'ai tout vu. On s'est énormément promené. On a fait beaucoup d'endroits. C'était magnifique et j'ai adoré. Et puis, en 90.
Tu tombes sur une image de François Colombani.
Une amie, qui est marseillaise, mais avec beaucoup d'acquaintances ici, loue une maison à Calenzane. Et moi, mon pote avait une moto, et moi je dis, oh, je viendrais bien. Et elle avait une grande maison, donc on a partagé. Chacun a pris une chambre, etc. C'était très sympa. On est venu en moto, moi j'avais ma VMAX, etc. C'était en 90, on était à Calenzane dans une maison magnifique. Et on a passé, il y avait Pierre Richard, il y avait Calfon, il y avait plein de gens. Et on a passé un été de malade à se balader, à aller chez André, à l'Argentel, à aller, on connaissait tout le monde, donc on se baladait, on allait dans toute la région, là, tout ça en moto, tout le monde en moto. Et un jour, je me suis assise à Lumio, comme ça, hein, sur le café d'Hermosa. Et j'étais là et j'ai regardé, j'ai couché le soleil, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai eu un flash, j'ai dit, moi, c'est là que je veux être. Et j'ai trouvé la Balagne moins show-off, plus calme, plus familiale, plus... J'ai trouvé la place de Calvi extraordinaire pour les enfants. Je me suis dit, moi, si j'avais un gosse, j'adorerais qu'il se baigne là parce qu'il peut faire des mètres et des mètres sans risquer, comme un petit bain pour enfants. Après, j'ai été chez Andrea Siesta, à Île-Rousse. Après, j'ai été... Et voilà, et je me suis commencé à Et d'année en année, je n'ai eu de cesse de revenir, de louer des maisons, de me mettre là, hors saison, en saison, en hiver. Après, on a rencontré José. Mon mari a commencé à passer son brevet de pilote avec José. Voilà. Et c'est José qui nous a trouvé cette maison, d'ailleurs. Et je le remercie. C'est lui, un jour, qui me l'a montré. Et voilà. Et mon amour pour la Balagne est né.
Donc, ça fait 22 ans.
La Balagne
90, ça fait 22 ans.
30 20.
Non, oui, 32 ans.
Oui,
32 ans.
T'es gentil. Ouais. 32 ans. 32 ans la
balle. J'ai voulu enlever la TVA. J'ai voulu enlever la TVA.
François, 80, c'est ça l'année?
Non. Non.
10.
30.
D'accord.
32 ans que tu lis ton destin avec la Balagne. Et ça nous amène à ce fameux festival.
Ah ouais, ça faisait longtemps, ça, tu vois, ça faisait très très longtemps que je voulais
C'est quoi qui t'empêchait de...
Oh ben le travail, trop de travail, et puis les deux ans d'arrêt total à cause du Covid, ça a été finalement l'occasion de me dire c'est le moment, c'est maintenant. Je mûrissais ça, j'écrivais beaucoup aussi. Je m'étais remis au théâtre après l'arrêt du lit parce que pendant des années, j'ai pas pu. J'ai essayé de faire du théâtre, j'en ai fait, j'ai jamais pu faire de tournée, jamais pu. Et quand j'ai arrêté Julie en 2015, je me suis dit, voilà, moi, tourner, j'ai tellement tourné. En fait, tourner, c'est formidable, mais pour ça, il faut avoir un rôle magnifique, mais c'est épuisant et puis c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant parce qu'on est très manipulé dans les tournages. Ce qu'on fait, ce n'est pas souvent ce qu'on montre au montage. On se sent souvent dépossédé de ce qu'on a voulu donner, de ce qu'on a voulu faire. Et j'étais un peu frustrée de tout ça. Alors que le théâtre, c'est quelque chose d'instantané. On travaille pendant 5 semaines, 7 semaines avec un réalisateur, des acteurs sur un texte. On le fouille, on va à fond dans quelque chose. Et quand on rentre sur scène, on est maître de son jeu du début à la fin. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a préparé, malgré etc., on est maître de sa soirée totalement et c'est extrêmement plaisant. Et surtout, il y a cet élément supplémentaire qui est le public, qui est vivant et qui est là et qui nous porte. Voilà, donc c'est vraiment, ça fait partie du jeu. Donc je me suis éclatée au théâtre, donc j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai pratiquement fait une pièce par an jusqu'à présent, et je me suis mis à faire des tournées à la rencontre des gens en province, et ça a été une vraie satisfaction, un vrai bonheur. Donc je me suis dit, je vais continuer, et je me suis repris d'amour pour le théâtre comme jamais. J'ai été voir beaucoup de pièces, rencontrer beaucoup d'acteurs, et donc je me suis dit, mais depuis le temps qu'on t'a dit, moi Moustaki, là, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, m'a toujours dit, je lui disais, comment je pourrais te le rendre un jour? Il m'a dit, en renvoyant l'ascenseur, transmets. Et ça m'est toujours resté dans la tête, et ça fait quelques années que je me dis, peut-être qu'il tente maintenant de transmettre aux autres. Donc j'ai commencé à monter une école, j'ai commencé à faire plein de choses. J'écris aussi parce que j'ai envie de réaliser. J'ai beaucoup de choses comme ça qui me nourrissent. Et cette crise covidiote, là, elle m'a plongé un petit peu. J'étais en pleine tournée, je sortais bien. J'étais à, juste avant qu'on s'arrête, j'étais en Corse pour jouer, pratiquement 2 jours avant, dans le sud, à Porto-Vecchio. Et on rentre et on est arrêté. On est arrêté, mais arrêté. Donc tout le monde. Hein. Donc on se retrouve, rien. Toute la tournée s'arrête. On n'a pas d'assurance au théâtre. Donc heureusement, j'avais de quoi subvenir à mes besoins. Et je me mets donc à faire des choses pour les gens en me disant, bah, tiens, je vais les occuper sur Internet, tu vois, des lectures, des trucs pour que les gens ne soient pas seuls, les encourager. Et puis finalement, je continue. Et je commence à mûrir ça. Et quand deuxième arrêt de jeu, je suis en pleine, je commence une autre pièce à Paris en septembre, alors qu'on devait la commencer beaucoup plus tôt. Fin septembre, on est arrêté même pas un mois après, 24 représentations, pareil, arrêt de jeu, dans la merde. Je me mets à monter une série web rigolote pour commencer, puis comme ça, puis je suis pas aidé par la directrice du théâtre, mais bon, peu importe. Et puis finalement, je suis là et je me dis, j'entends, qu'ils vont probablement rouvrir les théâtres, en tous les cas en plein air. Et ça a été le déclic. Okay.
D'accord. C'est là. D'accord.
Et j'ai entendu ça, j'ai entendu cette info. J'ai appelé le ministère de la Culture, direct. On m'a confirmé l'info. J'ai dit, je veux monter un festival, il faut m'aider. On m'a renvoyé sur la drague Corse. Ils m'ont aidé. Et j'ai monté mon festival. Et tout de suite, mes billes en tête, hein, mais je l'ai monté en 10 minutes. Hein. Je ne l'ai pas monté, je veux dire, j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai tout fait toute seule parce qu'en fait, en plus de ça, on n'a pas été aidé parce qu'on a eu le couvre-feu remis à rebelote dès qu'on a commencé le festival. J'ai donc pas pu faire la buvette que je devais faire avec Annie Traiteur, j'ai pas pu prendre les billets, j'ai pas pu faire les fêtes que je voulais faire, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je l'ai fait, je suis contente, voilà, je me suis démerdée. Et là, cette année, je le fais, mais alors attention, hein, là, je vais le faire, quoi.
En plus, tu as réussi à faire monter monsieur le maire.
Sur scène.
Ah, c'était pas gagné.
Oui, et puis c'était en plus, gagné. Angie m'a dit qu'il allait m'aider un peu plus cette année, donc là, je le vois demain, et j'espère qu'on va faire des choses ensemble, et voilà, j'ai très envie, puis c'est vrai que je ne m'arrête pas là, je n'ai pas envie de m'arrêter là, et j'ai envie de monter une école, j'ai envie de faire des séminaires de développement personnel par l'impôt, mais j'ai monté toute une, sur les soft skills, etc., j'ai monté tout un truc, j'ai envie d'être beaucoup plus là, et j'ai envie de faire pour les Calvez, pas forcément pour les touristes d'ailleurs, mais pour les Calvez en tous les cas, de pérenniser ça et de le faire sur d'autres périodes. Voilà.
Alors ça, on y reviendra quand et ce sera plus abouti. Hein. On tease, on fait du teasing.
Ah oui, ça sera
plus. RCC, on est très très bon pour ça.
Ça va se faire doucement.
Donc là, est-ce que tu as les dates?
Oui.
De cette année.
18-21 juillet. Mmh. Et peut-être que je rajoute une. Enfin, 18-19-20-21. Peut-être que je rajoute une date. Peut-être. Parce que
donc,
peut-être
18-21 juillet.
Ouais. On va dire. Entre une inauguration qui peut être le 17 et le 22 juillet. Voilà. Ça peut être entre le 17 et le 22 juillet. On va l'élargir un petit peu.
Toujours sur Spot Lumio Calvi.
Toujours dans des fonctions un peu différentes, mais toujours sur Spot Lumio Calvi, oui.
Voilà. Donc, déjà, c'est une info, chers auditeurs, exclusive.
Exclusive, oui. C'est
nous avons arraché... Après une lutte incroyable.
Ah ouais, je suis pleine, je suis couverte de sang. Je saigne de l'arcade.
Donc, probablement, en tout cas, du 18 au 21, mais il y aura peut-être une extension 17-22.
Moi, je préfère dire du 17 au 22 parce que c'est dans ça qui sera inclus. Voilà.
Dans ça qui sera inclus. Est-ce que tu peux nous donner une info sur. Est-ce que tu as des noms?
Oh, j'ai des noms.
Moi, je gratte jusqu'au dernier moment.
Mais je vais vous le dire, les options, parce que pour l'instant, c'est celle que j'ai envie d'avoir. Mais maintenant, il faut que je finisse de négocier. Moi, j'ai probablement Michel Leb dans une pièce qu'il a jouée à Paris, qui est formidable. Alors, attendez, moi, j'ai des noms. C'est pas insoutenable. C'est pas... Oh, putain, excusez-moi.
Intouchable.
Intouchable. Non, intouchable. Non. Inavouable. Ensuite, j'ai Chantal Latsou, que j'espère avoir, avec qui je suis en négociation, pour son one-man show. Ensuite, j'ai probablement Patrick Sébastien, j'espère, dans son spectacle Louis XVI. Ensuite, j'espère bien confirmer avec Michel Fugain pour fêter ses 80 ans et dans son band à part, son grand spectacle qu'il met en scène pour fêter ses 80 ans cette année et avec lequel j'espère on fera une méga fête. Et peut-être, reprendre le festival du rire qui ne se fera pas donc après comme l'année dernière, mais peut-être une soirée supplémentaire ou alors créer un autre festival du rire à un autre moment. Mais enfin, en tous les cas, peut-être une soirée spéciale. Rire en plus, je suis en train d'y penser.
Alors, dans l'émission, il y a un moment clé. Petite musique d'ambiance.
Vas-y.
Ah oui, Ennio Morricone.
Donc c'est Ennio Morricone.
Mais moi j'entends pas.
L'homme à l'harmonica. Tu vois ce que c'est ?
J'adore, oui.
Ouais, voilà. Voilà. Ça met l'ambiance, tu vois.
Ça met l'ambiance, je fais créer une atmosphère. Alors,
j'adore,
on l'a vu depuis 35 minutes maintenant. Voilà, tu as ton franc-parler, tu es comme ça. Est-ce que moi, on en avait parlé au téléphone quand on s'est mis en contact, on en a parlé un petit peu avant. Big Star sur TF1, c'est pas rien. Pas tout le monde qui peut le dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression, moi, de mon prisme à moi, hein, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le... Est-ce qu'il n'y a pas... Quand on invite Véronique Jeuneste sur les plateaux, est-ce que cette culture du buzz, est-ce que par rapport à ton franc-parler, on sait que tu vas partir au quart de tour, est-ce qu'il n'y a pas la sensation, des fois, alors je ne dis pas que c'est un piège, mais que des fois, on envoie quelqu'un en éclaireur pour se dire, je vais me la payer et ça va déclencher
mais bien sûr.
Une séquence qu'on pourra mettre sur les réseaux sociaux.
Mais bien sûr, hein. mais tout à fait. Mais c'est le monde qu'on vit aujourd'hui, hein. C'est pas moi. Moi, je n'ai pas changé du tout. Moi, j'ai toujours dit ce que je pensais. Ça m'a toujours ça m'a des fois porté préjudice, des fois non. Et j'aurais tendance à dire qu'un buzz d'un jour, Il faut savoir les gérer. Je veux dire, les buzz, ça passe, ça vient. Tout le monde est malheureusement victime d'un buzz d'un jour au lendemain. Les gens se saisissent d'une phrase, d'un mot. Ça correspond exactement à ce que je disais tout à l'heure sur cette jalousie, cette haine. Les gens ont envie de détruire leurs idoles en ce moment. Ils ont envie de casser les choses. Alors, je ne dis pas que je reste une idole. Puis, je crois que mon but n'est pas dans ma vie d'être une idole. J'en ai un peu rien à foutre. Honnêtement, moi je suis une femme, je vis ma vie tous les jours, je crée, je fais mes choses, mon but dans la vie n'a jamais été d'être une star, enfin, c'est pas un but en soi d'être une star, le but en soi c'est de réussir sa vie et d'aller vers les priorités vous emmènent. Moi si ma priorité c'est d'ouvrir ma gueule contre une injustice parce que je trouve qu'elle est injuste, c'est mon problème et honnêtement
tu le vis pas, enfin voilà, quand tu sors d'un plateau où il y a eu ce genre de comportement,
en plus ce qui est terrible c'est que les réseaux sociaux etc, ça reste quand même quelque chose de très virtuel, parce que moi dans la rue je vis tout à fait le contraire. Je ne vis qu'une grande popularité avec les gens qui viennent vers moi et qui me disent oh, ce que c'est bon de vous avoir, ce que c'est bon que vous disiez les choses, que ça nous fait du bien, on se sent moins seul. Je veux dire, faut pas croire. Il y a les réseaux et les gens qui créent ces multicomptes, ces trucs-là pour vous tuer.
Les trolls.
Oui, il y a cette chose qui est totalement virtuelle et pas réaliste. Mais vous plaisantez. Mais moi, je ne vis pas ça dans ma vie de tous les jours. Et loin, loin, loin de là. Et quand je vais jouer ma pièce où c'est plein dans les villes où on passe, quand on joue la pièce et qu'à la fin, on est là et que les gens viennent nous voir, mais il n'y en a pas un pour dire autre chose que
il y a une dichotomie entre l'image qui est un petit peu véhiculée sur les réseaux sociaux et ce que tu vis toi
au quotidien. Il y a aujourd'hui
en fait
cette haine où les gens, je pense que pour décharger leur haine, viennent sur les réseaux sociaux pour créer un compte pour dire « Ah, je te déteste !» Bon, bah, après tout, c'est leur droit. Ils ont le droit, si ça leur fait du bien, de dire « Je te déteste. » Moi, je m'en fous. Ça m'enlève pas une jambe.
Non.
C'est pas grave. C'est absolument pas grave. Parce qu'il y a au contraire tous ceux à côté à qui on fait du bien. Et moi, surtout, je me fais du bien. Parce que je laisse pas passer quelque chose que je trouve impassable. Quand je me bats, moi, contre le pass vaccinal, quand je me bats, moi, contre le manichéisme des gens qui disent « il y a le monstre à droite, il y a le héros à gauche ». Je veux dire, les gens ont une vision manichéiste du monde qui nous entraîne vers la catastrophe. Moi, je suis pour la nuance, je suis pour l'amour, je suis pour la vérité, je suis pour la paix. Il y a des choses que je n'ai pas envie de laisser passer. Peut-être que je suis con d'aller me battre, mais c'est la manière qu'on a aujourd'hui de défendre son opinion. Ben, je défends mon
opinion.
C'est
la démocratie, mais c'est vrai qu'on est dans un monde très binaire, très
manichéen. Donc moi, je dis, ben, moi j'y vais, mais si ça me déplaisait pas, j'irai pas.
Oui.
Et puis deux secondes après, puis vous savez, au début, on ne sait pas manier ces choses-là, puis après, on le sait. Et on a très bien compris que pour ne pas victime d'un buzz, bien sûr. Pour ne pas être victime d'un buzz, il suffit de ne pas y répondre et de commencer à parler d'autre chose. C'est exactement la politique d'aujourd'hui. Pour ne pas être victime de tout ce qui va se passer là sur ce qu'on apprend sur Pfizer, etc. On met l'accent sur autre chose, à fond la caisse. Alors qu'en fait, personnellement, mais ça c'est mon opinion, ce conflit ne serait peut-être pas monté autant en exergue, parce que des conflits dans le monde dans lesquels on est et dans lesquels les gens y sont et qui sont... Pourquoi tout à coup celui-là nous concerne tellement plus que tous les autres?
Oui, alors qu'en plus...
Pourquoi on met autant le point dessus comme ça? Pourquoi on nous menace autant? Pourquoi on essaie aussi autant de faire peur aux gens? Pourquoi on veut rendre les gens monstrueux et d'autres pas? Mais c'est quoi le but? Moi, je me dis, mais c'est quoi leur but? Désolé, mais on n'arrête pas de nous dire, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Mais comme toutes les autres guerres où on n'est pas en guerre et où malheureusement, on s'en mêle quand même. Donc, elle est où la différence? Moi, j'ai du mal à comprendre. Et je me dis que, exactement au même titre, quand vous faites un buzz sur quelque chose, parlez d'autre chose, vous allez voir, le buzz, il va s'arrêter direct. Et vous allez peut-être devenir le héros en parlant d'autre chose que vous n'étiez pas la veille,
oui,
parce que vous avez parlé
la vérité de la veille n'est pas celle de la doxa. Ouais.
Donc en fait, tout ça, c'est que de la manipulation et de la propagande. Mais le monde n'est plus que propagande. Et il y avait un journaliste qui disait un truc formidable. Il disait, interdire de parler de quelque chose par peur de faire de la propagande pour un camp, c'est faire soi-même de la propagande. Alors, on fait tous de la propagande, de sa propre propagande. Donc, je trouve que moi, je trouve ce monde trop manichéen, hein, je trouve ce monde trop agressif, tout en disant qu'ils veulent la paix, ils ne prêchent que pour la violence et la guerre. Et ça, ça me tue. Excusez-moi.
Non, c'est le but de l'émission. Hein.
J'ai peut-être
c'est ce qui fait le succès de l'émission.
Pas dans les locaux d'RCC, s'il te plaît.
Tu vois, François, t'es en train de le. Ça y est, là, il est en train de prendre une espèce d'envol.
Ouais. Alors, t'inquiète pas, il y en a quelques-uns qui m'attendent au baltrap.
Non, mais il y aura forcément là-dedans des gens qui vont ressortir des trucs. Elle est pro-Poutine, elle est pour. Je ne suis pro-personne. Je suis pour la vérité.
Bon, j'espère que t'es quand même pour François.
Oui. Alors, le fan club est assez réduit. Je ne le cache pas.
Ouais, mais ça va. Aujourd'hui, à mon avis, ça va. Tu vas voir. Tu vas prendre une espèce de cote.
Ouais. Alors, on arrive sur
t'as pas un autre invité bientôt de prestige, hein.
Ah, alors, oui. Alors, normalement, puisque, bon, je travaille au bar de l'aéroport. Et,
ah, voilà, j'ai... mais oui!
Voilà!
Le beau gosse
mais du bar
de l'aéroport. Mais
simplement, sans tes oreilles de Mickey, je t'avais pas reconnu.
Je devrais avoir, puisque j'ai son numéro personnel.
Oui. Est-ce que tu veux donner son nom? Oui,
je vais le dire. Demander. Oui, je vais le dire.
Oui,
ça met un petit coup de pression.
Vas-y, dis.
Comme il m'a dit oui,
ah,
maintenant.
Peut-être que je pourrais aller lui dire.
C'est Stéphane Guillon.
Oh, mais tu veux que je l'appelle?
Non, mais j'ai son numéro maintenant, ça y est. Bon, mais il Stéphane... m'a dit qu'il faisait du théâtre à Paris. Et qu'il sera là en avril.
Et ben il va venir. Stéphane.
Ben écoute, normalement.
Oh, mais il n'y a pas de raison qu'il vienne
oui.
pas. Hein.
Il m'a dit oui.
Il n'y a pas de raison qu'il vienne
donc,
pas.
Donc, du coup, on aura très certainement, courant avril, Stéphane Guillon.
Tu seras peut-être obligé de mettre un drapeau de l'Ukraine, mais.
Ah. Alors, on va conclure sur les questions flash. Alors, les questions flash, là. C'est question-réponse, c'est très flash. Si tu étais une qualité, quelle serait-elle?
La franchise.
Un défaut?
La franchise.
Est-ce que tu as un héros de la vie réelle ou de fiction qui te suit depuis que tu es toute petite?
Zorro.
Ce que tu détestes le plus chez l'homme? Bon, je pense qu'on l'a un petit peu abordé. Hein, c'est ce...
oh, je déteste rien chez l'homme. J'aime l'homme.
La chose dont tu es le plus fier?
Ma famille.
La dernière fois que tu as pleuré?
À la mort de ma maman, il y a un mois.
Est-ce qu'il y a une petite phobie qui traîne quelque part?
Oh, oui. Il y en a... Oui, j'en ai des phobies. Mais je ne sais pas, c'est plus sur le mensonge. J'ai une phobie du mensonge.
Est-ce que tu as un péché mignon?
Oh, la gourmandise! Il n'est pas mignon.
Et si tu pouvais revenir en arrière et dire quelque chose à l'enfant que tu étais à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Tu dirais « fonce ».
Chers auditeurs, nous avons eu, dans les locaux d'RCC, à une date où, normalement, vous auriez
c'était
dû
fini.
Avoir... Alors, à la télé, il y a la mire, à la radio, qu'est-ce qu'il y a? Il y a...
Il y a...
Et non.
Et c'est bien.
Là, il y a... Ta la la la.
Donc du coup, à une période où normalement nous n'aurions pas eu accès aux ondes, nous avons eu aujourd'hui Véronique Jeunesse. Je le rappelle, en avril, normalement, il a promis, il l'a dit, il me l'a dit. Entre quatre yeux, oui, je viendrai, Stéphane Guillon, au mois d'avril.
Pourquoi t'invites pas Michel hein, pour parler de son spectacle?
Bah, on va prendre les numéros, mais moi je vais prendre maintenant.
Je vais lui dire de venir.
Je vais prendre tout le
carnet d'adresse de Véronique Jeunet.
On va faire un airdrop avec le répertoire.
Mais t'as qu'à m'appeler, moi je te donne les noms, je les invite. Je vais faire ton attaché de presse, t'inquiète pas.
Alors, si c'est possible aussi de se faire rémunérer, parce que les fins de mois sont difficiles, je ne te
cache
pas.
J'imagine.
Non, je plaisante. On est bénévole, on est fiers de l'être.
Ça,
c'est
beau,
ça.
C'est
comme ça qu'on fonctionne.
J'ai une question, Véronique. Simplement, un auditeur nous a posé la question. Les dates du festival, c'est 17-22 juin ou juillet?
Juillet.
Voilà. Alors, monsieur.
Ah oui, mais il n'est pas con.
C'est Didier Vigraille.
Il n'est pas idiot.
J'ai croisé tout à l'heure, en plus.
Il n'est pas idiot. Non, mais il n'est pas idiot. Alors, 17-22 juillet.
Didier.
Probablement, ça commencera le 18, mais 17-22 juillet.
En plus. Je buvais mon café et il passe en voiture et me dit j'écoute RCC.
Ah.
J'écoute RCC. Ah. Donc après ma mère, ça fait deux.
Moi, ça fait. Alors mon mari, ça fait trois.
Voilà. Donc Véronique, merci beaucoup d'être venue dans nos locaux. On est très contents. On a passé un agréable moment.
Moi aussi.
Alors je rappelle quand même.
Et je tiens à dire quand même que Radio Citadelle sera partenaire de mon festival, hein, dans le sens où ils vont faire tous les jours des trucs pour le festival. Ça sera super. Donc ils recevront beaucoup beaucoup de vedettes.
On recevra beaucoup de vedettes.
Il paraît qu'ils sont super sympas en plus.
Il paraît qu'ils sont super sympas et on sera là pour les accueillir.
Et si le festival peut, il leur donnera un petit peu de rémunération.
Ça, c'est gentil.
Ah, on a du matériel à acheter.
On a acheté quelque chose.
Parce que nous, on a fait des annonces aussi avec la petite affaire qui nous est tombée sur le coin du museau. Nous comptons aussi, alors, les auditeurs le savent, mais je le rappelle quand même pour ceux qui ne sont pas au courant. Dernier trimestre, on s'est donné une date. Les derniers trimestres 2022, passé en web TV, web radio.
Cool.
Donc on aura besoin effectivement de mécènes pour essayer de faire la bascule.
Moi, je vous aiderai.
Chers auditeurs, on vous remercie d'avoir été là. Je fais une petite annonce qui a rien à voir. Samedi, nous avions fait une collecte au presbytère pour les réfugiés ukrainiens. Donc, Calvi est quasiment la première ville ukrainienne de Corse. De par la proximité du 2e régiment étranger de parachutistes. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui étaient présents là, qui nous ont aidés avec la confrérie à empaqueter un petit peu tout ça. Nous avons récolté 15 mètres cubes de dons. Et nous souhaiterions aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire l'emmener nous directement à la frontière pour que ce soit les Ukrainiens qui en profitent.
On prend un camion.
Voilà. Eh oui, mais maintenant, on a fait une petite cagnotte. Il nous faut le fourgon. Donc, on se rapproche. Voilà, toutes les personnes, un 15 mètres cubes L3H3. On partirait à 3, 2 ou 3.
Tu l'emmènes en Pologne,
3.
Alors.
On l'emmènerait à la frontière polonaise et les Ukrainiens viendraient le récupérer
en
même
temps. Je pense que tu vas trouver quelqu'un, quand même, un partenaire.
On souhaite. Alors, l'argent, on fait une petite cagnotte, mais je ne m'en inquiète pas trop. C'est surtout le véhicule. Si vous avez un véhicule de 15 mètres cubes, un peu surélevé, simple et sûr, parce que sinon, ça coûte très cher pour les péages. Simple et sûr, un fourgon 15 mètres cubes, nous serions capables d'emmener la totalité des dons récoltés directement nous-mêmes, c'est-à-dire d'un point A à d'un point B. On a la logistique, on a les bonhommes, on est prêt à le faire et au moins on est sûr, on a l'assurance que ça irait directement dans les mains des personnes qui en ont véritablement besoin en ce moment.
Donc tu partirais, toi ?
Tu doutes de l'acheminement des trucs, toi ?
Non, je ne doute pas de l'acheminement des trucs, mais je trouve que c'est bien pour le premier voyage. À Bastia, ils sont un petit peu surchargés, très surchargés, au théâtre de Bastia. Ça met un petit peu de temps à s'acheminer. Donc, si nous, on a une possibilité, grâce à la communauté ukrainienne, polonaise et roumaine, d'avoir un circuit court et de pouvoir l'amener le plus vite possible, pourquoi pas le faire ?
Hein,
ça éviterait que ça stagne une ou deux semaines de plus. Donc, on a la capacité logistique de le faire. Il nous manque juste un fourgon, je répète, 15 mètres cubes, L3H3. Si vous nous le prêtez, on vous le ramène. Vous inquiétez pas,
nickel.
C'est la confrérie.
Il le ramène nickel.
Et toi, tu partirais, François ? Je sais pas encore.
Peut-être, voilà. Bon,
tu
en même temps,
faire un petit direct.
C'est des zones dans lesquelles on passerait et qui ne sont pas affectées par le conflit. C'est juste pour le symbole, pour rassurer les gens et surtout pour pouvoir l'emmener le plus vite possible. On est en capacité de le faire. Donc, si vous avez quelque part un fourgon qui traîne en bon état, ce serait bien. Qu'on ne plante pas entre la Slovénie et la Slovaquie, ce serait bien. Hein, donc, avec un contrôle technique à jour, ce serait cool. Voilà. Nous, on a la capacité d'y aller très vite. Donc, voilà, le message est lancé. C'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de locomotion. Donc, on vous remercie déjà d'être venus samedi nombreux. Et on vous tiendra informé sur la page Solidarité
Facebook.
Calvi Ukraine Facebook et aussi sur la confrérie se chargera, confrérie Saint-Antoine-Abbé se chargera aussi d'informer les choses tout au long du truc. Donc on vous remercie d'une part de votre bienveillance, de votre solidarité. Et on remercie Véronique d'être venue.
Merci à vous.
C'était un plaisir. Chers auditeurs, rendez-vous. On va peut-être dans le courant de la semaine, on va faire un petit passage.
Oui. Hein.
Et on vous donne rendez-vous lundi.
L'ITV Calvez.
Voilà. Donc,
10h30 lundi prochain.
10h30 lundi prochain.
En direct sur RCC avec François Colombani.
Gros bisous pitou. C'est que de l'amour.